Bonjour et bienvenue au One AI Club, le podcast BD bimensuel qui rate ses claquages de doigts.
Comme ça, tranquille et tout.
Voilà. Là. Et une amorce foirée. Merci de nous écouter. Je suis One AI Pied. Je suis accompagné du sémillant Thio, plein de sourires et de myrtes. Et oui, on est en train de continuer la bouteille par rapport au dernier enregistrement. Donc, il y a une certaine continuité dans le taux d'alcoolémie.
Sans cesse croissant.
Mais lui, il me dit en plus, non, mais vas-y, la myrte, c'est léger et tout.
Que 24 degrés, ça va.
Ouais, mais enfin, comme je t'ai dit, au quatrième verre, tu commences à dire, oh, c'est lourd quand même.
Oui, c'est pas grave, on va parler de choses beaucoup plus intéressantes, un peu que dans l'émission précédente quand même. On est bien forcé de l'admettre. Enfin, pas de choses plus intéressantes, de plus de choses intéressantes, on va dire.
Bah, disons qu'il y aura du choix, quoi.
Voilà. On va parler donc de Ultimate Avenger numéro 8, de Ultimate Spider-Man numéro 9, Granville, de Walking Dead numéro 5, d'Ikigami et de Le Jour où 1987-2007. France Info, 20 ans d'actualité. Le titre est long à rallonge.
Et un hors-sujet.
Et un petit hors-sujet où on vous parlera de bref. Bref.
Bref.
On commence tout de suite avec la série du siècle. La série qui restera dans nos mémoires, qui restera gravée à tout jamais dans nos têtes. Nous allons parler de...
Ultimate Avenger, tome 8. Au prix de 4 euros, le numéro de juillet...
Ultimate Avengers.
Ouais. Juillet 2011, un bimestriel au prix de 4 euros.
Vous notez qu'on essaye de vous en parler toujours le plus tardivement. D'ailleurs, là, on a fait une erreur, on a cité le titre. Quand on a parlé du 7, on a omis de dire le nom de la BD tellement on avait trouvé ça. Oui, on a parlé du 7, on a quand même réussi à faire la chronique sans donner le nom de la BD. On est fort quand même.
Bon, le seul souci, c'est que vous ne pouvez pas vous torcher avec parce que c'est du papier glacé. Donc,
Mais ce n'est pas super agréable. Tu as déjà essayé, tu me suis connaisseur. Donc, Ultimate Avenger numéro 8, ça nous raconte la suite. En gros, on a des méchants vampires qui se luttent contre les Black Ops des Ultimates.
Qui se luttent, oui.
Les Ultimates menés par Nick Fury. Oui, c'est la dure lutte, comme on dit. Donc, les Avengers vont faire des méchants vampires et vont latter. Clairement, le scénar, malgré un scénariste... Qui nous a fait des trucs pas mal quand même. Hein.
Comment il s'appelle? Marc
Millar.
Millar.
Millar a fait du meilleur. Millar a fait du meilleur, tu vois.
Il était dépressif.
Voilà. N'empêche que, malgré tous ces côtés un peu nuls, cette BD, surtout que c'est encore à suivre, hein, je crois. Je sais même plus. Oui, c'est encore à suivre. Il y a encore un tome 9 qui nous fera la fin, je crois. Enfin, bon. Il y a quelque chose. Il y a quelques passages rigolos et sympathiques. Alors, je vais commencer. Moi, je crois que j'en ai trouvé deux de sympas et toi, t'en as trouvé un. Je vais commencer par le mien. Il y a un des passages où nous avons une espèce de parodie de Twilight, parce que oui, il y a Blade dedans, parce que comme il y a des vampires, il y a Blade forcément.
Bah, mais, c'était pour Blade, crédibiliser un peu le truc.
Par contre, ils sont inspirés de Blade 3 et pas de Blade 1 ni 2, tu vois. Ils ont pris le truc le plus ridicule qu'ils aient pu. Déjà, le 1 et le 2 n'étaient pas forcément géniaux.
Non, le 1 est efficace.
Oui, efficace. Le 2 était efficace aussi, mais voilà. Donc, attention. Je crois que je vais faire une couple.
Ah, oh mais vas-y, hein, parce que t'as un coup de fil à 11h le soir, je décroche pas.
D'accord. Et oui, donc il y a une sorte de parodie de Twilight qui était assez rigolote. Moi, ça m'a bien plu. Le passage qui t'a plu, vas-y.
Alors, c'est vrai que le petit passage de Twilight, c'est sympa. Ensuite, il y a un petit passage drôle avec Hulk et donc, je sais pas comment il s'appelle, le Bob, là, le chef.
C'est une sorte de stick, quoi, je crois, non? C'est pas le
ouais, c'est le mentor de Blade.
Ah, le mentor de Blade, pardon, oui. Qui ressemble au mentor de Daredevil. Qui ressemble à mon mentor de Daredevil.
Ouais. Et qui lui dit, ouais, je suis le chef. Et puis je savais qu'un jour, quelqu'un voudrait prendre la place de chef. Le combat dure environ un millième de seconde.
Il arrache la tête.
Il lui arrache la tête et Hulk qui fait, c'est moi le chef.
Ou d'ailleurs, c'est le Hulk intelligent.
Ouais, c'est le Hulk qui réfléchit.
Bon. Et l'autre passage, moi, qui m'a fait sourire, c'est qu'on a quand même un truc super, c'est qu'on a les deux, les frères Stark. Donc Tony et je ne sais même plus comment s'appelle le nouveau Stark qu'ils ont inventé, qui ont des discussions entre frangins où ils n'arrêtent pas de se chambrer non-stop et je trouvais ça assez rigolo.
Ouais.
Et voilà, passons à... Allez, attends, vite fait quand même. Genre, c'est de l'opéra bouffe. Hein. Du scénario, c'est du guignol.
Vomissement.
Et le dessin, c'est du cubique.
Lisse.
Oui, parce que alors, le dessinateur est bon. Hein, Steve Dillon, j'aime bien, mais il n'est pas fait pour ça. Oui, Steve Dillon, j'aime bien, mais il n'est pas fait pour ça.
Il est bon.
Non, mais il n'est pas fait pour ça.
Non, excuse-moi, c'est bon ça pour toi ? Je vous le dis, je prends là, juste la première page.
Bon, d'accord, là il est mauvais.
Descendez-les, voilà.
Il a fait beaucoup mieux.
Ouais, vous avez un graphisme qui est moche, qui est mal dessiné.
On va pas non plus s'attarder trop longtemps sur cette BD.
Ok, ça va, on passe à la suite.
Hein ? Bah, on passe à la suite. Nous enchaînons avec Ultimate Spider-Man numéro 9.
Yes.
Par Brian Michael Bendis.
10.
Et
au dessin, Sarah Piccelli. Et David Lafouette.
Moi, j'aime bien les deux. Je préfère David Lafouette, parce qu'il a un style plus cartoony, qui, je trouve, colle vachement bien à la série.
Oui.
Et d'ailleurs, qu'as-tu mis pour le style graphique ?
Bah, écoute, là, tu vois, là, je dis oui, mais j'étais un peu déçu.
Ah oui, je trouvais ça péchu.
Bah, ouais. Bon, parce qu'en fait, moi, ça, tu vois, déjà, tout tient à la couverture.
Ouais.
La couverture, bon... T'as déjà tout le scénario qui est mis en place, hein. Je veux dire, t'as Spider-Man qui se tape la tête dans le mur avec les...
Ouais, mais là, qui se tape la tête dans le mur, genre, oh putain, fais chier.
Oh putain, fais chier avec les Avengers derrière. Mais je veux dire, quand tu regardes...
Les Avengers, les Ultimates.
Les Ultimates,
parce que les Avengers, c'est la série mauvaise dont on parlait juste avant.
Bon, et quand tu regardes la gueule de Thor, excuse-moi, mais Thor, il s'est aussi mangé le mur de face, quoi.
C'est vrai qu'il a l'impression
de... Voilà. Donc, ça, déjà, ça, c'est fait. Ensuite, quand tu regardes le petit passage dans l'école où ils sont en train de discuter là, à leur table...
Ouais, mais les passages de Black Cat sont super beaux, quoi.
Les passages de Black Cat sont jolis, mais voilà, ça m'a un peu déçu dans l'ensemble.
D'accord. Moi, je trouve ça très sympa. On a oublié de parler du genre, hein. C'est du super-héros, mais classique, de chez classique.
Ultra
super-héros.
Là-dessus, il n'y a pas de doute.
Mais on arrive sur le scénario. On va aller vite sur celui-là, et pourtant, il vaut plus le coup que le Avengers sur lequel on s'est un peu étalé. Le scénario, j'ai mis fun.
Adolescent.
Ouais.
Adolescent, parce qu'on reste, enfin là on est vraiment dans la problématique de qu'est-ce que Spider-Man fait dans son slip, quoi.
Voilà, mais j'attendais que tu places le mot slip parce que tu l'avais dit tout à l'heure et il fallait que ça passe dans ce podcast.
Non, mais c'est ça, je dirais, ouais, mais faut que je me mette avec qui, en fait elle est partie, mais est-ce que c'est ma faute, et puis elle revient, et puis faut que je lui parle, et... Ouais, voilà, on est vraiment dans du ado, quoi. Après, bon, il y a le passage de...
Iron Man qui débarque.
Iron Man
qui débarque. Ça me fait vraiment penser à l'administration, tu sais, le côté administratif qui... Le gars, il fait un truc, il croit que c'est normal parce que c'est son chef qui lui a dit, mais en fait, c'est une grosse connerie qu'il aurait pas dû faire. Tu sais, le petit déraillement administratif à deux balles, je trouve ça assez réussi. Et la réaction, d'ailleurs, de la tante May est très, très, très bonne. Très réussie, très juste.
Ouais, surtout, c'est qu'il vient juste de déménager, quoi.
Et non, pareil, il y avait, comment elle s'appelle, qui avait fugué, c'était Gwen Stacy.
Ouais.
Là, qui bah, revient. Hein, et je trouve que la façon dont c'est abordé est très juste, sans être caricatural. Ça donne pas l'impression de se foutre de la gueule de thèmes qui sont adolescents. Je veux dire, je trouve que c'est une super bonne BD pour ados. Quoi. Je rapprocherais ça d'une série genre les frères Scott, mais avec des super-héros intelligents. Oui, ma femme regarde les frères Scott en ce moment.
Et... Pause sévère. Tout de suite.
Ma femme regarde les frères Scott en ce moment et j'ai dû regarder un ou deux épisodes. Et voilà.
Bon, il y a juste une case qui est intéressante, c'est le moment où Tante May montre qu'en fait elle a des super pouvoirs parce qu'elle défonce un téléphone dans un mur.
Oui, enfin bon, ça, tu te mets sur un jeu vidéo dur et tu défonces une manette dans un mur aussi. Hein. C'est pas des super pouvoirs pour autant. Bon, le Captain America. Voilà, le Ultimate Spider-Man reste une série très agréable. C'est un peu popcorn, mais je trouve que c'est super bien écrit et que ça donne bien envie de la suivre. J'espère qu'ils vont faire des beaux albums qui récapitulent un peu ça pour les gens qui auront raté les passages en kiosque, parce que ça vaut le coup, je trouve.
Mm.
C'est pour de l'ado, et pour quelqu'un qui a su rester un peu ado dans son cœur, de midinette, c'est vachement sympa.
Plaisant, c'est plaisant.
Ok, vas-y, fais ton aigri, là.
Je sais pas mon aigri, mais je te dis, moi j'étais un peu déçu par. Ben, il y a eu un épisode intéressant avant avec justement donc les gars qui avaient pris l'apparence de Spider-Man, mais ça a duré
très long. Ça ne peut pas faire non plus durer ça trop longtemps.
Oui, mais c'est passé super vite et ben, je trouve que ça manque d'allant, quoi. On n'avance pas dans la série.
On va voir les prochains crossovers, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le Spider-Man aux États-Unis en ce moment, dont on a beaucoup parlé.
Oui.
Mais on va pas trop spoiler là-dessus, et nous allons passer à Granville, mon amour.
De Brian Talbot. On avait déjà parlé du premier tome de Granville. Qui moi personnellement m'avait beaucoup plu.
Et on reparlera de Brian Talbot, je pense, à un moment donné où on arrivera à se faire l'intégrale de Sandman.
À un moment donné.
Voilà, parce que la relecture est longue quand même. Avec tous les trucs qu'on a au milieu, c'est quand même 10 tomes assez denses.
Et surtout qu'il y a quand même des dessins qui piquent un peu les yeux au début.
Ouais, et puis même les dessins de Brian Talbot dans Sandman, il pique un peu les yeux. Hein. Je prends.
Ouais, mais il a progressé depuis.
Ah ouais.
Bah, pardon. Ouais.
Donc, nous allons sur le genre.
Ça, et franchement, c'est pas beau ça.
Le genre, c'est du polar uchronique.
Yep.
Bon, allez, que nous raconte Granville. Qui est son héros? Que fait-il? D'où vient-il?
Pardon, excuse-moi, j'étais un peu. J'étais un peu là.
Le plus grand des héros des temps nouveaux.
L'inspecteur Lebrock, donc qui est donc un, je sais pas, un blaireau.
Oui, c'est ça. Dit comme ça, c'est.
Non, mais parce que c'est des animaux, ça va.
Les personnages sont zoomorphes.
Voilà. Et donc du coup, c'est un blaireau qui est donc un détective donc de Scotland Yard, qui a perdu son amour.
Dans le tome précédent.
Et en fait, là, on nous sort son pire ennemi, le serial killer Mad Dog. Et oui. Ça va être une enquête donc au 19e.
Parce qu'il s'échappe, en gros, et juste avant sa peine de mort, et il essaie de comprendre pourquoi, comment, pourquoi,
et où il est, il veut le retrouver. Sauf que en essayant
pour
de
l'achever, parce qu'il a failli le tuer la première fois qu'il l'a chopé.
Oui, et là, ce coup-ci, il va pas.
Il a l'intention de ne pas le rater.
Il va le faire. Et donc, du coup, là, on va suivre donc, toute l'enquête dans cet univers où Napoléon a conquis l'Europe.
Oui.
Et où les Anglais ont été conquis.
Ils viennent de regagner leur indépendance il y a quelques années, quand même.
Ouais, suite justement au mouvement de Mad Dog, qui était un mouvement donc révolutionnaire. Ouais,
en fait, lui, il faisait partie du mouvement révolutionnaire, mais c'était un peu un des intégristes de ce mouvement-là. Tuer. Voilà, un peu un psychopathe qui profitait du mouvement pour faire le mal. Pour tuer des gens parce que ça lui plaisait.
Il s'est libre cours à tout ça. Qu'en as-tu pensé, toi?
Alors, scénaristiquement, je trouvais que mon mot est simple. Je n'en ai pas mis car j'étais un peu perdu. Je n'arrivais pas à trouver de mot simple pour le dire. Je trouvais que le scénario était bien conçu. C'était du bon polar, une enquête intéressante, avec des rebondissements comme il en faut, des fausses pistes comme il en faut. On arrive à bien suivre les choses. L'intrigue autour de l'amour perdu du héros est un petit peu secondaire et c'est un peu elle qui conclut l'histoire. Je la trouve un peu faiblarde. Mais à côté de ça, toute l'enquête est très sympa et l'univers est très sympa. Je me suis bien fait plaisir. Bon, après, on en a parlé dans Jason Bryce, hein, mais la prostituée avec laquelle le héros couche... Hein,
oui, mais sauf qu'elle ressemble vachement à Sarah, quoi.
Ah oui, en plus, elle ressemble à son ex. Bon, donc...
Il vient juste de perdre. Il était au port du gaz 5 pages avant.
Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, en dehors de ce côté un peu sentimental que je trouvais pas forcément bien maîtrisé, je trouve que l'enquête policière, puis le cadre de l'enquête policière est très sympa. J'étais bien pris. Il y a un côté politique qui rentre en compte, avec des implications sur... vraiment, ça pourrait pas se passer dans un autre univers que dans celui-là, et je trouve que c'est très bien écrit à ce niveau-là. Quant à toi,
ce petit univers steampunk, moi, me plaît toujours autant. Quoi. Voilà, c'est bien mené, c'est dynamique, tant dans le dessin que dans l'histoire elle-même et dans les rebondissements qu'il va choisir. C'est une très très bonne enquête. Quoi. Parce que du coup, on te révèle tous les petits indices au fur et à mesure. Tu vas avoir des morceaux qui vont arriver comme ça petit à petit, et c'est vrai que finalement voilà, tu arrives à la fin et c'est mieux qu'un Hercule Poirot, quoi.
Moi la fin m'a déçu parce qu'on finit un peu sur le retour, enfin l'action de fin, la scène d'action finale m'a plu, mais le final en soi, j'ai trouvé ça très convenu, très oui, non, je te parle le final en soi, les dernières pages, quoi, vraiment les dernières pages.
Ah.
Ça m'a un peu... Ouais, c'est simple, quoi. C'est facile.
Pourquoi c'est facile ?
Oh, le coup de...
Mais...
amour perdu, machin chose, il arrive sur, sur sa tombe, machin chose...
Bon, je pourrais faire un parallèle et du coup aller vraiment dans ton sens en te disant... ouais, mais regarde, c'est pareil dans Black Sad. Dans le top 2, je crois que la femme qu'il aime s'en va, il n'arrive pas à la suivre.
Ouais, mais...
c'est pareil.
Oui, mais Black Sad, je préfère les dessins. Justement, parlons-en des dessins. On n'est pas d'accord. Je veux dire, on va avoir le même avis que la dernière fois, je pense. On va pas être d'accord.
Bah ça, moi, je trouve que ça colle super bien. C'est dynamique, c'est joli. Alors, c'est vrai que c'est un peu surprenant sur certaines cases, parce qu'il y a aussi des erreurs dans les proportions ou dans les couleurs qui font que c'est un peu criard.
C'est la colorisation moi, qui me... j'ai mis dégradé, parce qu'il y a des dégradés dans tous les sens. Je trouve que la colorisation, elle n'est pas bien. D'ailleurs, à la fin, il y a un bonus où il te montre les étapes de la planche. Et je trouve que quand il met les aplats, juste avec les aplats, bah, je trouve que les dessins passent mieux. Quoi. Sans les effets de dégradé dans tous les sens qu'il y a, je trouve que rien qu'avec les aplats, le dessin passe mieux.
C'est-à-dire que tu le passes juste à la...
À l'étape 3, tu vois.
Oh ouais, non, mais là, juste les aplats, ça aurait été un peu roots, quoi.
Un peu roots, mais je trouve que les étapes au-dessus, il en fait trop. Il utilise trop son Photoshop pour faire des effets dans tous les sens, quoi. Et moi, ça me plaît pas.
Je dirais que tu vas à la rigueur, tu t'arrêtes à l'étape 4.
Non, parce que à partir du moment où tu as fait l'étape 4, l'étape 5 est justifiée, il essaie de coller une ambiance, ça va très bien. Mais oui, en gros, l'étape 4, il va utiliser tous ses dégradés, ses effets Photoshop, et l'étape 5, il rajoute un filtre verdâtre pour créer une ambiance. Le filtre pour l'ambiance passe est très justifié, passe très bien si on accepte l'étape 4. Mais moi, l'étape 4, je trouve qu'il en fait trop, en fait. Je trouve ça dommage.
Moi je trouve que pour une fois voilà, tu vois, il va au bout du truc, puis ça te fuit, c'est ce qui crée aussi le...
Mais ça,
moi je pense que c'est vraiment ce qui fait le sel dans la richesse du bouquin, quoi. Si t'as pas le dessin comme ça, si t'as pas cette ambiance qui se crée, à mon avis tu le passes beaucoup moins
bien. Je trouve que l'ambiance en fait elle sonne trop informatique, moi c'est ça qui me choque. On est dans une histoire qui est très très loin de l'informatique et je trouve que tous ces effets de couleurs... C'est trop informatique, on le voit, c'est informatique. Quand tu le regardes, tu peux pas te dire « Ah, c'est peut-être de l'aquarelle » ou etc. Des fois, tu as des coloristes qui, même en informatique, arrivent de donner cette impression-là. Là, tu le regardes, tu te dis « Ah bah, il a fait ça à l'ordinateur. » C'est évident. Tu peux pas penser à autre chose qu'à un ordinateur. Sauf que l'ambiance de la BD se prête pas, pour moi, à un côté informatique.
Mmh. Ouais, non, là, je te trouve dur, quoi. Je suis pas de cet avis dans le sens où, vu que c'est un monde qui est quand même à la fois ancien mais nouveau par beaucoup de choses, le dessin pourrait y couler.
Ouais,
quoi.
Mais il aurait dû faire des couleurs, je sais pas moi, avec des engrenages. Ça aurait été plus dans l'ambiance.
Des couleurs avec des engrenages.
Oui, non, je viens de dire une connerie en fait. Pour steampunk et tout, je cherchais un truc sympa, mais en fait c'est nul.
Ouais, je cherche un truc à te jeter, mais j'ai la solution entre la bouteille d'eau et... Mon portable, donc...
Elle est en verre, la bouteille d'eau, elle est pleine, donc tu as oublié. Ton portable, ça va, je veux bien.
J'y tiens.
Bon, je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que moi, j'ai pas accroché, je trouve que ça colle pas, quoi. Pour moi, ça m'a perturbé, je trouve que ça va... Enfin, la forme, au niveau des couleurs, ne va pas avec le fond de l'histoire.
Ok.
Ce qui n'empêche pas d'avoir des clins d'œil sympas. Il y a un Donald qui est parodié au milieu. Il y a une allusion à Tardy, plus que flagrante, dans deux des personnages humains.
Ah bon ?
Ouais, Tardy et
Lucien,
et... Lucien de Margerin. Tardy et Margerin. T'as des clins d'œil à Tardy et Margerin, mais ouais, qui sont d'une flagrance.
C'est les deux seuls personnages humains qu'on croise.
Voilà.
Donc, par contre, c'est une petite déception par rapport au tome. Non, au tome.
Ah, quand même, il y a des déceptions toi aussi. Ah, tu vois que tu n'as pas aimé totalement non plus.
Non, c'est par rapport aux rajouts qui ont été faits par dans l'édition de Milady Graphique, quoi. C'est sur le premier tome, il y avait des rajouts intéressants sur le point de vue historique, justement sur la gravure, tout ça. Là, il y a juste un petit sur le travail de Brian Talbot. Je trouve
oui, là, c'est que deux pages de bonus. C'est un petit peu moins.
C'est un peu moins riche. Voilà, vous pouvez me dire. On les avait beaucoup félicités.
Ouais, combien il coûtait celui-là ? Combien il coûte celui-là ?
17 euros quand même.
Ouais, enfin bon, c'est du 75 pages à 17 euros, ça reste raisonnable.
Ouais,
c'est un assez grand format quand même.
Ouais, rigide.
Du bon papier. Ouais, c'est honnête.
Ouais.
C'est honnête.
Mais ils auraient pu mettre un peu plus, quand même.
Ouais, c'est vrai. Un peu de rattrapage ?
Ouais, mais tu veux vraiment qu'on parle de Walking Dead ?
Ouais. Parce que moi, Walking Dead, même si sur la couverture du numéro 5, on dirait qu'il y a Boba Fett, je l'ai trouvé vachement bien.
C'est pas faux pour le Boba Fett.
Ouais, moi ça m'a choqué. J'ai cru que le gars, il avait un masque de Boba Fett, et en fait, c'est la façon dont il dessine les reflets sur les casques de CRS, enfin, ou de je sais pas quoi, mais qui est trop bizarre.
Mais surtout, c'est que la visière, tu sens qu'elle est un petit peu décalée. Enfin,
bon. Nos héros dans Walking Dead. Donc, un monde où les zombies ont pris le contrôle du monde et où un groupe de survivants essaie de s'en sortir. Nos héros sont installés dans une prison.
Ils ont presque fini de la nettoyer.
Voilà, tout va bien. Jusqu'au jour où ils voient un hélicoptère qui s'écrase.
Et ils se disent, oh mon Dieu, il y a d'autres survivants. Allons les voir.
Et là, ils se rendent compte, quand ils arrivent à l'hélicoptère, que d'autres personnes sont passées avant eux. Et ils se disent, ils se retrouvent confrontés à une autre communauté qui n'a pas exactement suivi les mêmes règles. On va pas trop en révéler, parce que ce Walking Dead numéro 5, même si on est tellement à la bourre que je pense que tout le monde a déjà lu les tomes qui suivent.
J'ai toujours pas vu la série, quand même.
Moi non plus. C'est du gore psychologique au niveau du genre. Oui, car là, on rentre vraiment dans le cœur du gore. Mais ça reste quand même très, très, très psychologique avec les pensées des personnages, comment est-ce qu'ils réagissent à ces nouvelles situations. Ça reste quand même une série très humaniste. Hein.
Ouais. Ben surtout, c'est vraiment l'évolution des personnages par rapport à cette situation où ils ont... où tout ce qu'ils connaissaient s'est écroulé. Quoi. Et c'était une phrase justement de la femme de Rick qui est très juste quand elle discute avec...
La galerie de portraits au début est très très
ouais, utile. C'est Laurie qui discute avec. Elle est où ? Carole, je crois.
Oui, Carole.
et qu'elle lui dit voilà, mais en fait.
Carole la cochonne.
Voilà, non, mais en fait, on se connaît pas, quoi. Je veux dire, si ça se trouve, dans la vraie vie, on se serait jamais parlé. Et là, depuis, je sais pas, 6 mois ou un an.
Ouais, 6 mois. Ouais.
Depuis 6 mois, en fait, la seule chose dont on parle, c'est qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? Il faut qu'on survive. Et c'est vrai que du coup, tu te dis que dans un monde post-apo comme ça, les personnes avec qui tu es, je pense que tu te concentres quand même beaucoup plus sur les trucs essentiels, quoi. Et non, enfin, on peut pas être amis, quoi. On peut pas se connaître assez pour. Et c'est vrai que du coup, les gens avec qui tu te retrouves dans cette situation-là, tu te dis peut-être que.
Parlons du dessin.
Peut-être que tu pourrais te retrouver avec un tueur en série.
Oui, ce qui est arrivé dans les tomes précédents. Des dessins.
Moi, j'ai mis. Charlie Adler est un génie.
J'ai mis noir. Je trouve qu'il utilise beaucoup plus ce monsieur Adler de noir dans ce tome. Ça s'y prête, hein, au niveau de la thématique, parce qu'il est bien sombre. Quoi, vas-y, qu'est-ce que c'est ce sourire ? Tu crois que j'ai fait une blague raciste ou un truc dans le genre ? C'est. Vas-y, dis-moi.
Pourquoi tu dis ça à cette tête-là ? J'ai rien dit. Hein ?
Ouais, c'est
ça. Je fais une tête, ça va, je fais une tête. Fou là.
Un jour, on fera des podcasts vidéo et vous verrez les têtes qu'il fait. C'est pas n'importe quoi, c'est pas innocent. Je trouvais que c'était beaucoup plus sombre que ce qu'il dessinait d'habitude, c'est-à-dire que même si on est dans une situation assez terrible, là on a beaucoup de scènes de nuit, on a beaucoup de scènes en intérieur, ce qui était moins le cas dans les autres tomes en fin de compte, qui était plus lumineux.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, surtout c'est que j'ai l'impression que là on rentre vraiment dans ce tome-là, on rentre vraiment dans le côté sombre des personnages, quoi.
Dans les premiers tomes, ils ont affaire aux zombies. Ils essaient de savoir comment s'en débrouiller.
Puis ils sont à l'extérieur.
Ils ont réussi à se démerder avec les zombies. Tome suivant, ils doivent se démerder avec les problèmes qu'ils ont à l'intérieur. Mais des humains. Hein. En gros, premier tome, comment est-ce qu'on s'en sort tout seul ? Deuxième tome, comment on s'en sort avec d'autres gens qui sont avec nous et qui ne sont pas forcément là pour nous aider ? Là, on arrive sur comment on s'en sort avec des gens comme nous, mais qui ont fait d'autres choix. Et pas forcément des choix super sympas.
Ben oui, mais enfin, la question du choix, elle est déjà venue dans les tomes précédents.
Et alors là, en plus, il arrive un truc majeur à Rick. On peut rien révéler, parce que c'est... Ouais. Bon, je le savais, parce que forcément, quand tu vois les pubs pour The Walking Dead, tu sais ce qui va lui arriver. Donc, mais on va pas le dire, au cas où vous soyez parmi les gens qui y aient échappé.
Et que vous lisiez à la même vitesse que nous.
Voilà. Parce que, waouh. Mais en théorie, quand vous aurez fini ce tome-là, vous finirez par lire plus vite que nous.
Ouais, parce qu'en fait là, c'est dur de s'arrêter.
Ton scénario, tu as mis quoi comme mot ? Plat. Donc tu trouves le scénario
non,
plat.
J'ai mis déjà vu. Et c'est qu'un seul mot, ça, en anglais.
Déjà vu.
Déjà vu.
Déjà vu. Moi, j'ai mis terrible.
J'ai mis déjà vu, mais excellent.
Déjà vu.
Ouais, mais c'est déjà vu parce que tu.
Mais ça, c'était au départ, le déjà vu. Là, on commence à voir quelque chose d'un peu neuf quand même.
Ah non. Je trouve que c'est déjà vu dans le sens. On est dans un monde post-apo, on s'est fait notre survie à nous, on survit tant bien que mal. Et là.
C'est le drame.
C'est le drame. Et là, bah, non, mais voilà, et là, rebondissement, on croise d'autres personnes. Mais
qui survivent aussi,
mais qui survivent aussi, mais pas de la même façon. Et donc c'est déjà vu parce que ça, tu le vois dans n'importe quel truc post-apo, quoi. Mais là,
souvent dans les trucs post-apo, quoi que ouais, dans 28 jours plus tard, on avait un peu ce côté-là avec 28 jours plus tard, l'autre communauté.
Prends,
oui.
Tu prends Mad Max.
Ouais.
Enfin, souvent c'est un truc qui revient, quoi. Mais sauf que là, c'est pas, bah, c'est excellent.
Moi, je trouvais ça terrible parce que j'étais à fond avec tous les personnages tout du long. J'ai frissonné pour eux, j'ai halluciné pour eux. Je suis arrivé à la fin du tome en me disant « Mais pourquoi il n'y a pas de page en plus ? Pourquoi il n'y a pas de page en plus ?» Voilà. Dernier petit...
Surtout que ça, ouais, je te coupe, mais en fait, ça commence... Au début, ça commence tranquille.
Oui.
Vous arrivez... Je vous donne la page. Hein.
Oui, parce qu'il n'y a pas de cliffhanger quand même. Hein. Voilà. Dans le tome précédent, il n'y a pas de cliffhanger. Donc.
Hop, on lit peinard tranquille jusqu'à la page... Ah, attendez, j'y suis presque.
C'est son numéro de téléphone.
Ouais. Ça se lit tranquille, on dit tiens, je continue l'histoire de Walking Dead. Vous arrivez à la page 79 et là, vous dites je peux pas m'arrêter.
Et vous arrivez à la
sauf que
page.
Sauf qu'il vous en reste quand même encore presque une soixantaine jusqu'à la page 138 et là vous dites bon, bah il faut que je ressorte et que j'aille acheter la suite.
Voilà, ce qu'on n'a pas encore fait, mais ça va pas tarder. La prochaine fois que je passe
en fait, le problème c'est ça, c'est que moi quand je suis allé dans un grand magasin avec un V, j'ai failli l'acheter, mais je me suis dit non, c'est pas moi qui fais la série. Après c'est moi qui aurai le tome 6, puis après il faudra que ce sera le bordel. Voilà, donc du coup.
Donc en gros, tu vas me battre jusqu'à ce que j'achète tes suites.
On peut pas dire ça. Enfin franchement, si t'as rien à faire demain, c'est comme une chienne.
On a un tas d'autres BD à lire pour les prochaines émissions, mais oui, non, je pense que la prochaine fois que je passe en librairie, je vais l'acheter. Dernier truc à remarquer, hein, genre auto-promo, teaser, etc. La traduction d'Edmond Touriol est très très bonne, pour la simple raison qu'on n'a à aucun moment l'impression que c'est une traduction, que ça coule de source, que c'est très très bien fait. Edmond Touriol, qui est quelqu'un dont on reparlera sans doute un de ces quatre. Quoi ? T'as vu un peu comme c'était subtil ?
Traduction, Edmond Touriol, Macma. Alors en fait, je crois que c'est parce que peut-être que vous aurez bientôt des nouvelles de lui.
Peut-être. Mais ouais, pour le moment, c'est pas encore fait. Mais voilà.
Je dis rien.
Ouais. Et puis on continue dans les séries qu'on suit en retard. Avec Ikigami.
On a beaucoup de retard sur Ikigami.
Il reste 3 ou 4 numéros, je crois, de retard.
Oh, ça va ?
Oui, ça va, un peu plus, il nous en manque... On en a 8, hein, donc il n'est de retard. Oh, le 14 sort ce mois-ci.
Bon, donc, Ikigami, rappelons-nous.
Tome 5.
Préavis de mort. La loi de prospérité nationale veut que un enfant sur 20 000...
Sur 1000. Meurt entre 16 et 24 ans.
Entre 16 et 24 ans, pour justement prouver aux autres qu'il faut bien vivre.
Et que le coût de la vie est important, voilà. Et que c'est bien.
Et donc on suit l'histoire donc de notre livreur, hein. Livreur de justement d'Ikigami.
Ikigami qui est le papier qui va annoncer aux gens, il vous reste 24 heures à vivre.
Voilà. Et donc ce livreur se pose de plus en plus de questions.
C'est le filigrane. Toutes les questions autour de ce livreur sont le filigrane. C'est-à-dire ce qui est très bien dans cette série, je trouve, c'est qu'on a à chaque fois, dans chaque tome, deux histoires complètes. Qui sont assez indépendantes, qu'on peut lire très tranquillement, tout en ayant en filigrane une progression dans l'histoire du livreur d'Ikigami, dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs, tellement en fait...
Je t'avoue que ouais, pareil. En fait, mais le nom, il est... Enfin, ce sens, on s'en fout, quoi.
Ouais, c'est...
Il est livreur,
mais... Ça pourrait être n'importe qui, en fait. N'importe lequel d'entre nous qui se retrouve dans ce genre de situation à devoir faire quelque chose et où il se pose des questions. Est-ce que
en fait,
ce que
non,
je fais...
J'aimerais pas être cette personne-là, quand même.
Non, j'aimerais pas être à sa place. Bah... je dis pas que j'aimerais être cette personne-là, mais j'arrive à me mettre à sa place facilement. Je comprends ses doutes, je comprends le fait que c'est aussi son boulot, ce côté d'être pris au piège d'un système avec lequel on n'est pas forcément totalement d'accord, mais où on a tout intérêt à fermer sa gueule. C'est humain.
Mmh. Avec la police qui est toujours à côté.
Et donc là, on va avoir deux histoires. On parlera du filigrane, hein, après avoir parlé de deux histoires, peut-être.
Alors, on suit un peintre en bâtiment.
Ouais.
Et on suit un étudiant à l'HQ. Et voilà. Bon, ça vous donne envie, hein.
Ah ouais, ça donne envie, dit comme ça. Donc, en gros, c'est un jeu... En fait, on a toute une histoire dans l'univers du tag. Tout simplement. Avec le fait de savoir si... comment dire, des choix qu'on a faits, si on est fier de ces choix ou si on n'en est pas fier, et est-ce qu'on peut vivre ou mourir avec les choix qu'on a faits.
Bah, les regrets, les remords. Quoi.
Voilà, c'est très subtil. Moi j'ai été surpris parce que les choix des personnages, leurs réactions ne sont pas forcément ceux qu'on attend.
C'est-à-dire ?
Bah, le héros, tu te dis, c'est un. Enfin, tel qu'il est présent, enfin, le personnage principal, pardon, tu te dis, tel qu'il est présenté, c'est un rebelle, c'est un tagger. Mais non, en fait.
Non.
Alors que pourtant, c'est un super bon tagger et un super bon rebelle, si tu dis c'est l'image qu'il donne aux autres, alors que non. Et pourtant, c'est le genre d'image, tu serais fier quoi, de la donner quelque part. Hein.
Et lui, non.
Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un attachement à la famille, à l'honneur, qui est super important et que j'ai trouvé super intéressant et qui. Je sais pas si c'est parce que c'est pas un point de vue occidental au niveau de la pensée. C'est une pensée qui est peut-être pas très occidentale, je pense. Au niveau de l'honneur, de perpétuer l'honneur familial.
Oui, là je pense que c'est fortement, fortement asiatique. Quoi.
Voilà. Et pareil, bah, on suit ce jeune homme qui se retrouve avec un Ikigami qui se dit « Ok, jusqu'ici j'ai choisi de suivre la voie de ma famille. Est-ce que maintenant je vais suivre la voie de mes rêves ou est-ce que je vais suivre la voie de ma famille ?» Et il fait bah, le choix auquel on ne s'attend pas.
C'est ça.
C'est très très bien. Deuxième histoire.
Alors l'élève Fayo qui.
Ah oui, lui il rêve d'avoir.
Lui il rêve d'avoir l'ikigami. Son père est fait partie justement de la police qui surveille les gens qui ne sont pas pour la loi de prospérité nationale.
Ouais, donc. Rebelle.
Et dégénéré.
Ouais.
Et finalement il reçoit l'ikigami. Et là, c'est le plus beau jour de sa vie. Son père pleure, sa mère est en larmes. Il va être un héros national. Lui est trop heureux.
De mourir pour sa patrie.
De mourir pour sa patrie. Alors qu'en plus, un de ses voisins de classe a dénoncé son prof de cours particulier parce qu'il était dégénéré, qu'il avait des idées contraires à.
Voilà, et que c'est un héros qui parce qu'il a dénoncé son prof.
Ouais, parce qu'il a dénoncé. Il a eu le courage.
Ouais. Parce que c'est dur de dénoncer. Ça demande du courage. C'est un honneur d'être. Voilà. Bon, en France, c'est le genre de pensée qui a des connotations très très particulières.
C'est difficile, voilà. C'est...
qui là, bah, pour, dans de la BD aussi, justement. Et c'est aussi très intéressant parce que, clairement, je crois que c'est une des histoires qui attaque le plus franchement l'Ikigami, dans son principe.
Je pense vraiment que le tome 5, c'est le tome où tu... Enfin... où les deux histoires sont faites justement pour te faire changer d'avis dessus, quoi.
Bah, dans le premier,
ouais, dans le sens où dans toutes les premières histoires, tu as un sentiment d'injustice, tu as un sentiment de tristesse, mais
tu dis que c'est peut-être pour le bien de tous.
Il y a pas de sentiment où tu te dis, ok, mais ça va amener un manque.
Ouais.
Le premier truc, tu te dis l'histoire du tagger, tu te dis, ouais, mais là du coup, ça va être un vrai manque pour la suite de l'histoire. Pour la société en elle-même, pas pour juste son intérêt.
Il y a une dénonciation de l'ikigami voilà. Dans cette histoire-là qui n'était pas très présente dans les précédents.
Et puis le suivant.
Qui commence à arriver avec le tome précédent avec la femme qui essayait de sauver son enfant.
Ouais. C'est vrai, je pensais un peu à elle aussi. Mmh. Et du coup, tu as après finalement voilà, le bon élève qui là va critiquer va avoir la critique finalement la plus acerbe parce que c'est
il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système et que c'est absurde.
C'est absurde, voilà.
Il se retrouve confronté aux limites du système et à son absurdité et alors qu'il était à fond pour. Et en parallèle, donc nous avons notre jeune pourvoyeur d'Ikigami, notre jeune fonctionnaire qui se pose des questions mais qui n'ose pas trop ouvrir sa gueule parce qu'il a peur d'avoir des problèmes.
Ouais, parce qu'on lui a dit que c'était peut-être pas trop bien d'en parler ouvertement.
Bah, qui commence à rentrer un peu plus ouvertement en contact avec un groupe de dissidents. Même s'il y a toujours la question de savoir est-ce que la personne qui me dit qu'elle fait partie d'un groupe de dissidents fait partie d'un groupe de dissidents ou est-ce qu'elle me dit ça pour que je tombe dans un piège.
Et que j'aille en...
Et c'est très très bien amené parce que moi tout du long je me suis dit... Ah, mais tu fais quoi dans ces cas-là ? T'as envie que ce soit des dissidents. Mais si c'en est pas, t'es mort.
T'es mort. Qu'est-ce que t'as mis au fait pour le dessin, toi ?
Pour le dessin, j'ai mis Constant.
Moi, j'ai dessiné un trait plat, tu vois, comme l'encéphalogramme. C'est toujours pareil, c'est
égal à lui-même. C'est efficace, c'est assez sombre, ça colle très très bien à la thématique. Un côté assez froid dans le trait, et assez noir quand il faut l'être. Qui sait partir un peu en vrille, juste ce qu'il faut dans les scènes de tension. C'est pas mal. Et le scénario, j'ai mis vicieux.
En fait, du coup, je retombe sur un mot que tu as dit il y a 2 secondes, c'est absurde prospérité.
Ouais. Moi, j'ai trouvé le scénario vicieux.
Mais c'est la démonstration par l'absurde, quoi. Là, ouais. T'arrives vraiment dans du... tu reviens vraiment dans du Camus, quoi.
Ouais.
T'es vraiment dans la démonstration par l'absurde.
Ou du Kafka.
Ouais, tu peux arriver dans du Sartre aussi, si t'as envie, mais... Ouais.
Bienvenue au One Day Club, le podcast qui se la pète en citant des auteurs intello.
C'est quoi déjà la phrase de tout à l'heure ? La philosophie se prolétarise.
La philosophie se prolétarise, oui.
Ce sera un prochain HS qu'on va faire d'ici un ou 2 mois.
Mais d'abord, il faut qu'on prenne des drogues qui rendent intelligent.
Ça existe ?
Je sais pas.
Ouais. Non, vraiment, voilà. Tome 5, je pense que ça va être le tome charnière.
Ouais.
C'est le moment où...
Enfin, j'espère que ça va être le tome charnière.
Tout vacille.
Nous verrons bien avec les tomes suivants.
Moi, je dis tout vacille à ce moment-là. Et enfin, on arrive donc à Le jour où, 1987-2007... Alors, un bouquin donc, de France Info, 20 ans d'actualité, donc, qui est sorti chez Futuro.
Il y a 4 ans quand même.
Il y a 4 ans quand même, ouais.
Alors, on est un peu à la bourre, c'est juste que ce bouquin a été offert à mon père, qu'il a un peu oublié chez moi, qui traînait dans un placard, et je l'ai retrouvé. Je me suis dit, mais j'ai pas lu ce truc-là. Lisons ce truc-là.
Et le pire, c'est que quand on regarde les gens derrière qui ont bossé dessus...
C'est pas mal.
Il y a du monde quand même. Quoi.
Donc en gros, France Info, pour fêter ses 20 ans, a voulu faire une sorte de BD commémorative avec dedans d'ailleurs un CD avec des extraits de France Info sur ses 20 ans. Non, je t'ai pas écouté non plus.
Ah, mais c'était voilà. Ma phrase. Je veux dire, putain, il faudra quand même que j'écoute le CD parce que j'ai lu tout le bouquin. Mais
ouais.
Le CD.
Et qui donc a décidé de s'intéresser à une vingtaine d'événements, pas forcément un par année, parce qu'il y a des années où il se passe des choses moins intéressantes que d'autres,
ou des choses moins marquantes aussi.
Des événements marquants avec la question où étiez-vous quand cela est arrivé ? C'était la question posée aux auteurs. Et les auteurs sont très très nombreux, très très variés. Vas-y, toi qui as la liste des auteurs, vas-y.
Moi, je vais citer un peu des gens que je connais. Hein. David Bay, Guy Delisle, Blutch, Emmanuel Guibert, Luc Brunschwig, David Prudhomme, Pascal Rabaté, à chaque fois j'ai rien. Josaco. Après, il y en a d'autres qui doivent être connus, mais là, je ne sais pas tous.
Ce qu'il faut savoir, c'est que France Info fait depuis quelques années un prix de la BD de journalisme, tous les ans. Qui va donc mettre en valeur un auteur de bande dessinée, journaliste de terrain. Donc Joe Sacco est un très 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 bon représentant. On a aussi effectivement dans ce qu'on connaît un petit peu Guy Delisle, qui sont des gens qui se retrouvent sur le terrain au milieu de l'action pour parler des choses, etc. Et là, ils ont fait un peu appel au titulaire de ces prix-là, et puis il y a d'autres, qu'on n'attendait pas forcément d'ailleurs sur ces sujets-là, pour nous parler de sujets aussi variés que des guerres ou...
La mort de Lady Di, la guerre au Kosovo, la libération de Mandela, la fin du mur de Berlin, la fatwa sur Salman Rushdie, un truc d'actualité, c'est quand même le 11 septembre 2001...
Ouais, du coup, là, difficilement passé à côté.
C'est en 10 ans, quoi. C'est en 10 jours. Non, c'était il y a une semaine. C'était 15 jours, pardon.
Ouais, c'est 15 jours, précédente émission. Oh, on n'a pas fait dommage, on est nul.
Ouais, en même temps, écoute. Enfin, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Alors, clairement, hein, c'est très varié.
Le dessin, moi, voilà, je dirais. J'ai mis hétérogène, mais c'est normal, quoi.
Tu aimes ou tu aimes pas, mais je trouve que c'est la variété des approches qui est super intéressante. Certains ont parlé d'une actualité en se présentant comme étant au cœur de cette actualité-là. On est au milieu, on voit ce qui se passe, on est au cœur de l'événement. Et d'autres ont vraiment montré le côté où est-ce que j'étais au moment où ça a eu lieu, avec cette actualité qui est en toile de fond de l'histoire. J'ai beaucoup aimé, je ne sais plus qui a écrit cette histoire-là, avec le père qui s'inquiète pour sa fille. Je trouve plus
c'est pour le tsunami.
Ouais, pour le tsunami. Enfin, je trouve que c'est une histoire très touchante, très jolie.
Pierre Belli et... Non, pardon, Simon Hureau.
Voilà. Là, on était vraiment dans le quotidien, la vie de tous les jours, et avec en toile de fond les grands événements qui se passent dans le monde. Et à côté de ça, on a des trucs qui se retrouvent au cœur de l'action, avec le... y a une BD qui est en roman photo, en fait, où là, en gros, ils vont juste chercher les cadavres de... suite à un massacre, et c'est dur, quoi. C'est assez dur. T'as oublié de citer Baru, tiens, dans les auteurs.
Ouais, enfin,
j'ai juste été président l'an dernier d'Angoulême. Hein. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un des dessins dedans qui fait énormément penser à l'affiche d'Angoulême de l'an dernier. Mais alors, plus qu'énormément. Donc, voilà, par exemple, Baru, lui, a fait de l'illustration pour la fin du service militaire. On se rend pas compte comme ça, hein, mais on y a échappé, nous. Hein.
Mm.
Voilà, c'est ça de faire des études longues.
Ouais, enfin quand j'ai voulu y aller, ils voulaient plus de moi.
Ah, t'as voulu y aller, toi ?
Ah, bah, il y a un moment, quand j'ai fini mes études, je voulais y aller, mais on dit non, c'est trop tard.
C'est vrai que. Voilà, bon, moi non, mais bon, ça nous aurait peut-être fait du bien, on n'aurait pas été des branleurs qui parlent de BD.
Ah là là. T'as peut-être mieux entendre ça que les sourds. Hein.
Voilà, donc bah, c'est une bonne dessinée, moi je trouve très intéressante. Je sais pas si on la trouve encore, parce que c'est vrai que c'était une bande dessinée un peu liée à l'actualité, mais qui a un bon témoignage sur 20 ans d'histoire. 20 ans de petits et de grands événements qui sont très 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 jolis. Quoi.
Bah, je trouve que le scénario en fait c'est personnel quoi. Faut avoir vécu. Enfin, personnellement, il y a beaucoup d'événements que j'ai vécu soit par la télévision, soit tu vois. Enfin, la libération de Mandela, je sais que je l'ai vécu. Je peux même te dire où j'étais. J'étais à Paris chez ma tante. Toi.
Ouais, c'est... moi c'est pareil. Le 11 septembre.
Non mais enfin.
Je sais où j'étais.
Bah, pareil. Enfin voilà. Mais c'est vrai que du coup, tu retrouves plein de trucs d'un quotidien et ça.
Des événements qui t'ont touché plus ou moins aussi. Mm-hmm. Il y a des événements. Tu dis ah oui. Ça... Mais,
puis tu là, l'avais
c'est
oublié.
Des événements que t'avais oublié. Tu dis oui, je me souviens. Je me souviens. C'est un très beau travail de mémoire. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de 2007.
Ouais.
Enfin, de 1987-2007, un très très bel ouvrage chez Futuro, comme beaucoup d'ouvrages chez Futuro, en fait. Hein. Nous n'allons pas le nier. Meilleur du mieux. Vas-y. Moi, j'ai choisi. C'est trop facile, en fait. C'est terrible comme c'est trop facile.
Bah, je t'en prie, vas-y.
Walking Dead. Je suis arrivé à la fin, il me fallait le suivant. J'ai l'impression d'avoir pris une dose de drogue, j'étais sous crack, quoi.
Ouais, bah écoute...
C'est pas forcément le plus intéressant d'un point de vue BD, etc., mais...
Ouais, non, c'est sûr que ça te donne envie d'avoir la suite, ça te remue, quoi. T'as envie de... Ouais, t'es tendu, quoi, mais... Ouais, non, je trouve quoi, là, mais tu vois, là, en le refeuilletant, parce que du coup, ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, le jour où, mais... Bah, le jour où, voilà...
C'est un bien, oui, c'est un beau témoignage.
Ouais, c'est un beau témoignage. Puis, comme tu dis, ça fait vraiment écho à des choses personnelles, quoi. Parce que tu reviens sur, sur toi en même temps, parce que c'est des événements que les personnes de 30 ans, elles connaissent, quoi.
Voilà.
A priori. À moins qu'elles aient vécu au fin fond du Keras, sans télé et sans info.
Oui, peut-être même un peu moins pour les derniers événements. Mais bon.
Ouais, enfin, quand tu commences en 87.
Ouais. Oh, on était jeunes, hein.
Bah, 10 ans. Oh, mince, on a rêvé notre âge.
Notre hors sujet.
Nous
allons parler de.
Bref.
Bref, une série qui passe actuellement dans le grand journal.
De Canal+.
Voilà, alors au moment où vous en parlez, il y a eu assez peu d'épisodes, il y en a eu 3 ou 4.
Peut-être un peu plus.
Ouais, il y a peut-être rien qui peut se faire aujourd'hui qui n'est pas encore en ligne. Non, mais au moment où on vous parle, pas au moment où on est diffusé.
Non, mais ah ouais, non, d'accord. Mais au moment où on nous parle, c'est quand même un moment où eux, ils auront déjà eu peut-être plus d'épisodes que.
Arrête de nous prendre la tête avec ces histoires temporelles. Hein. Parce que là, j'ai le cerveau qui va saigner.
C'est pour ça qu'après tu te trompes, en fait.
Voilà. C'est ta faute, en fait. Et donc.
Ok.
C'est trop facile.
Bon, en même temps, vu que je fais rien dans la technique, ouais, t'as raison, c'est ma faute. Hein.
Voilà. Oui, c'est ta faute. Bref, en gros, nous raconte l'histoire d'un mec.
C'est l'histoire d'un mec, c'est ça.
Et on va suivre, en fait, ses schémas mentaux. Bref, il nous raconte sa vie.
Mais avec tout ce qui se passe dans sa tête.
Tout ce qui se passe dans sa tête et tout ce qui... Et c'est raconté de façon très rapide, une série d'enchaînements où il va très très vite d'un passage à l'autre. Il y a un montage hyper rythmé, hyper saccadé. Enfin, saccadé, c'est très fluide, mais paf, 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 il y a un enchaînement super efficace. Moi, je trouvais ça très, très drôle.
Bah, c'est très drôle, c'est très péchu. Ouais. Et puis, bon, l'avantage, voilà, c'est que c'est quand même du gag court, quoi. Donc, du coup,
t'y a pas de... Je trouve que pour le programme court, c'est quand même vachement plus péchu qu'un gars et une fille, même un Camelot, quoi. Que j'aime bien Camelot, mais là, on est dans du waouh.
Oui, mais parce que dans Camelot, t'as quand même aussi beaucoup plus de personnages et t'as une ambiance qu'il faut poser.
Là,
quoi.
Je pense qu'il y a des potes à lui qui vont revenir. Au revoir. Son pote qui l'encourage dans l'épisode 3. Discrètement.
Non, mais là, ouais, je pense que c'est beaucoup plus péchu, c'est rapide, quoi.
Et puis bon, c'est aussi une série sur un trentenaire de célibataire de maintenant.
Qui commence à être guetté par la calvitie.
Voilà, et qui est un peu geek sur les bords et dans lequel on peut assez se reconnaître. Enfin, en tout cas, moi, sur certains points, je me suis reconnu, surtout avec son pote de main.
Avec le pote de main, oui, non, d'accord.
À qui il remet tout.
Tu m'as fait peur sur le coup, je me suis reconnu dans certains trucs.
Oui, non, oui. Non, pas tout, je ne suis pas un trentenaire célibataire.
Ouais, déjà, ça c'est mort.
Voilà. Bref.
Tu mets la petite capote sous l'oreille.
Ouais, ouais. Hey bref, c'est une très très bonne série. Et puis ça a un lien avec la BD. Car un des scénaristes, c'est le scénariste de la bande pas dessinée, Navo, qui a un vrai nom, mais je l'ai oublié. Et bande pas dessinée, si vous connaissez, c'est très rigolo. C'est une série de strips sans dessin avec que des bulles.
Très très trash quand même.
Très trash, mais très drôle. Là, il est un peu moins trash, mais on reconnaît un peu son côté un peu cynique, un peu direct, un peu voilà. Je veux dire, quand il enlève le sopalin qu'il y a sur la table de nuit, nous n'avons pensé à rien.
C'est parce qu'il n'y a pas de mouchoir.
Ouais. C'est vrai que le sopalin.
Faut faire attention, ça irrite le nez.
Ouais, c'est vrai. Ça hérite le nez. Bref, une bonne série qu'on vous recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, l'acteur principal, je trouve qu'il a une bouille. Je trouve qu'il a une tête vraiment trop. Enfin, c'est le mec, c'est un pote, quoi. C'est le gars que c'est un de tes potes, quoi.
Il a le physique pour réussir, quoi. C'est un mec plein d'avenir, tu le sens.
Ouais, mais même, ils en ont pas fait un gars qui a une tête de loser. Ils en ont pas fait un moche. Ils en ont fait un mec commun, qui a l'air sympa, qui a l'air plutôt cool.
Commun, mais en même temps, il y a des moments où, avec le cadrage et tout, il fait le mec. Tu sais, quand il travaille son regard pour ça.
Quand il travaille son regard, oui.
Son regard, excuse-moi, mais.
J'ai des fêlures.
Ouais.
J'ai des fêlures.
Là, d'un coup, avec l'image, je dis putain, la vache.
Bon acteur. C'est...
Putain, on dirait Zidane, quoi.
Voilà. Alors, j'ai pas encore vu le Grand Journal. J'ai juste vu des trucs sur le site de Canal. Apparemment, la nouvelle formule du Grand Journal ne plaît pas beaucoup, mais bref. A l'air de beaucoup plaire. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, j'adore, et je vais essayer de les regarder tous, parce que c'est génial. Bien.
Bip,
nous
bip.
Avons... Oui, tu as fait bip, bip, nous avons fini...
Ah non, c'est pas moi.
Nous avons fini l'émission.
Je pense que c'est toi, parce que tu avais dit que ton chargeur est plein.
Ah, c'est possible.
Ah.
Quoi qu'il en soit, comme à l'accoutumée,
face de présent sur... Twitter, enfin, Twitter, il n'y a que lui, il n'y a pas moi, donc mais c'est
est-ce
pas
que toi, t'es pas social, toi.
D'ailleurs, je voulais vous dire que bientôt, sur les peines Mirabeau, il y aura une réunion sur les dangers des réseaux sociaux sur Internet. Et si vous voulez venir,
voilà. En tant que parent, on va en discuter avec un de nos potes, voilà. Comme quoi Twitter c'est le mal.
Comme quoi, il a des dangers. Voilà, qui sont...
Tu écoutes cette émission, ça m'étonnerait. Tu te reconnaîtras.
Oui, mais je suis d'accord avec lui qu'il y a des dangers.
Oui, enfin bon, faut pas abuser non plus. Il y a des dangers aussi dans la presse et c'est pareil. Bref, on n'est pas là pour débattre de sujets super d'actualité. Ah tiens, juste pour info, j'ai oublié de le dire, j'ai participé à une émission sur un podcast fort sympathique dans lequel j'ai parlé de Google+, de ce que ça amenait. J'ai parlé d'un sujet tech, ça n'avait rien à voir avec la BD, c'était très sympa. Je vous mets l'adresse online parce que moi j'ai bien aimé.
Si ça vous intéresse. Hein,
voilà, c'est un podcast belge mais avec très peu d'accent, donc en plus on comprend vachement bien ce qu'il dit.
En fait, c'est pas le podcast, c'est surtout que faut suivre au niveau technologique, quoi.
Ouais, non, mais au niveau technologique, au niveau des réseaux sociaux, du social network. Bref, c'est la classe.
Excuse-moi, juste, c'était quoi la discussion la dernière fois? Est-ce que sur le bitmap, on peut mettre un code alpha, un filtre alpha?
Ouais, et en plus, j'ai résolu son problème, c'est lui qui me buse. Mais bon, rien à voir. Bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés, parce que là, on est en train de divaguer totalement, et ça devient n'importe quoi. On se retrouve... peut-être y avoir hors série bientôt, je sais pas quand. Sinon, s'il n'y a pas d'hors série d'ici là, c'est dans 15 jours.
On se retrouve dans le mois d'octobre.
Ouais, dans 15 jours pour une émission tout à fait normale. Ciao.
Ciao.
qui va nous faire du blues, c'est ça, c'est hey.
J'ai mal au doigt à la fin.